Pendant une quinzaine de secondes, je reste plongée dans le noir complet. Après quoi, je sens la plaque métallique me pousser au dehors, à l'air libre. Éblouie par le soleil, je perçois juste une forte brise ainsi qu'une odeur prometteuse de sapin. Puis, j'entends tonner tout autour de moi la voix de Claudius Temple Smith, le speaker légendaire. « Mesdames et messieurs, que les 74e Hunger Games commencent !» Aujourd'hui, nous allons parler de Hunger Games dans ce nouvel épisode d'Adapte-moi, si tu peux.
Docteur Lecter, je m'appelle Clarisse Darry. Est-ce que je peux vous parler ?
Tu es un sorcier, Harry.
Je lui pardonnerais volontiers son orgueil s'il n'avait pas blessé le mien.
Vous avez toujours été le gardien.
C'est qui le con qui a écrit ça ? William Shakespeare.
Bonjour et bienvenue dans Adapte-moi si tu veux, le podcast qui compare des livres à leurs adaptations en film ou en série. Aujourd'hui, nous allons parler de Hunger Games, un roman de Suzanne Collins paru en 2008 et qui a été adapté au cinéma par Gary Ross en 2012. Pour parler de ce titre, je suis avec Pascal.
Salut.
Et Hugo.
Bonjour.
Malheureusement, Manon n'a pas pu nous rejoindre à la dernière minute à cause d'un problème de santé, mais on pense fort à elle et on espère vite pouvoir la revoir avec nous. Avant de commencer, comment avez-vous entendu parler de ce titre ? Est-ce que c'était d'abord le livre ou d'abord le film ? Et je vais commencer par Pascal.
Moi, j'avais d'abord lu les livres, parce que du coup, c'est une trilogie. Quand j'étais ado, je pense plus ou moins au moment de sa sortie, parce que j'aimais bien tout ce qui était roman fantastique, tout ça. Et j'avais vu les films aussi au moment de leur sortie, parce que j'avais beaucoup aimé les livres.
Et toi, Hugo ?
Moi, j'ai vu les films il y a quelques années, avec toi d'ailleurs, Victoire. Oui. Je les avais pas vus du tout à leur sortie, ou je sais pas combien de temps ça faisait.
Les premiers dates.
Ça faisait longtemps. Hein.
Oui, non, parce que ça fait 4 ans peut-être qu'on les a vus.
Ouais.
Et donc, moi, j'ai vu tous les films d'un coup. En un mois, on en regardait un par semaine. Et j'ai lu les livres là pour l'épisode il y a quelques semaines. Enfin, seulement le premier.
Moi, du coup, j'avais d'abord lu les livres, mais en fait, c'était vraiment très, très, très longtemps après la sortie. Et d'ailleurs, même après que le dernier film soit sorti, je les ai lus en 2016, je crois. Je les avais genre empruntés à la médiathèque de Lille en me disant « bon bah allez, c'est le moment de les découvrir ». Et du coup, je les ai lus vraiment en 3 semaines, je pense que j'avais lu les 3. Et c'est ensuite comme ça que j'ai regardé les films avec Hugo pendant un mois. Parlons du livre. Donc Hunger Games, c'est un roman sorti en 2008. Il était écrit par Suzanne Collins, qui est une autrice américaine. Son père était officier dans l'armée américaine. Il est parti un an à la guerre du Vietnam pendant sa jeunesse. Donc Suzanne a notamment vu des émissions de télévision montrant la violence du conflit au Vietnam et du coup ce qui l'a beaucoup traumatisée. Et surtout que son père lui manquait, qu'elle ne l'a pas vu pendant un an. Ensuite, quand son père est revenu de la guerre, elle a été témoin de ses angoisses extrêmes et des cauchemars qu'il faisait parce qu'il avait forcément un syndrome post-traumatique. Voilà, donc elle a grandi un peu dans ce contexte-là.
Ça explique beaucoup de choses.
Exactement. Et elle a commencé à écrire à partir de 91 des scénarios et des histoires pour des programmes de télévision jeunesse. Elle a écrit aussi une première série littéraire jeunesse de 2003 à 2007 qui s'appelle Grégor. C'était une série qui reprenait un peu le mythe d'Alice au Pays des Merveilles. C'était deux enfants qui passaient à travers un conduit de machine à laver pour se retrouver dans un monde souterrain. Donc il y a eu 5 livres et c'est ensuite qu'elle a écrit Hunger Games, donc qui l'a vraiment fait découvrir dans le monde. D'ailleurs, pour Hunger Games, elle a été inspirée par une autre histoire, par un mythe grec, lequel ?
Bah, c'est pas Minotaure,
Thésée. Si. Si, si, c'est exactement, c'est le mythe de Thésée du Minotaure.
On s'est regardé avec Pascal en mode, il y en a un de nous qui va dire une connerie.
Merci Hugo d'avoir répondu.
Ouais, parce qu'en fait, l'histoire du Minotaure, c'était, si vous vous souvenez, le roi Minos, dans sa cité à Knossos, si je ne me trompe pas, il avait construit un labyrinthe dans lequel il y avait le terrible Minotaure. Et en fait, tous les 9 ans, ils envoyaient 9 garçons et 9 filles dans le Minotaure,
oui,
en mode en sacrifice.
Dedans, dans le Minotaure.
Dans le labyrinthe, pour affronter le Minotaure. Globalement, ils mouraient tous jusqu'à l'arrivée de Thésée. Bref, du coup, c'est une des choses qui l'a influencée. Et bien sûr, elle a été aussi influencée par sa jeunesse et aussi par le fait, quand elle zappait à la télé, elle de se retrouver soit à regarder des émissions sur la guerre, et notamment au début des années 2000, c'était la guerre en Irak, et quand elle zappait, elle se retrouvait dans une émission de télé-réalité. Donc elle dit, en fait, à force de zapper, ça a un peu créé la confusion dans mon esprit, et c'est comme ça qu'elle a eu l'idée des Hunger Games.
Intéressant.
Du coup, Pascal, est-ce que tu peux nous faire le résumé de ce premier tome de Hunger Games ?
Alors, dans les ruines de ce qui semble être l'Amérique du Nord se trouve Panem, pays dirigé par le Capitole qui fait régner l'ordre sur ses 12 districts, en forçant chacun d'entre eux, chaque année, à envoyer une fille et un garçon aux Hunger Games, les fameux Jeux de la faim, dans lequel le but est tout simplement de survivre. Car il n'y aura bien sûr qu'un seul gagnant. Quand le nom de sa petite sœur est tiré au sort, Katniss Everdeen se porte volontaire à sa place pour participer à ces fameux jeux. Katniss devra alors faire face à la survie, la faim, la violence, mais aussi à l'amitié et à l'amour.
Oh non mais Pascal,
on est là pour ça.
Ça fait plus t'en empêcher.
Il y a quand même des choses à dire.
Très bon résumé. Du coup, on commence peut-être par parler un peu du contexte de Hunger Games, parce que ça se passe dans un monde dystopique, dans un futur indéterminé, et du coup, juste, on va peut-être planter le décor, histoire qu'ensuite ce soit un peu clair pour tout le monde. Donc comme tu disais, effectivement, l'Amérique du Nord n'est plus. On est à Panem, donc, qui est composé en fait du Capitole, qui est la capitale, et qui est entouré à l'origine de 13 districts qui vivent globalement à plusieurs seuils de pauvreté, et qui sont contrôlés par le Capitole, et en fait on comprend que il y a une guerre 74 ans avant
une révolte oui.
Voilà, enfin une révolte des districts contre le Capitole et qui a amené la création des Hunger Games et la destruction aussi du district 13 en titre d'exemple du Capitole.
Et chaque district a un petit peu sa spécialité. Le 12, oui. Dans lequel est Katniss, c'est le charbon. Il y en a, c'est les objets de luxe. Il y en a, c'est les récoltes de grains. Enfin, ils ont tous un peu leur particularité. C'est pour ça que je pense que c'est plus des régions que des états en soi. Ils se découpent des régions. Il y a, oui, des mines d'or aussi.
Et plus on s'éloigne en chiffres, plus le district est pauvre, en fait.
Ouais, c'est ça.
Les districts 1, 2, 3, globalement, ils ont un bon niveau de vie.
Le 3, je crois que c'est une exception, parce qu'ils ne sont pas hyper riches. Mais par contre, le 4, ils sont riches. Donc, c'est surtout 1, 2, 4. Et en fait, les autres, ouais, c'est ça, c'est différents niveaux de pauvreté, quoi. Mais quand tu arrives aux 11 et 12, c'est vraiment les pires. Enfin, c'est les pires niveaux de... Ouais.
Et le charbon, bah, c'est pas ouf.
Non, et puis en plus, ils sont quand même contrôlés par le Capitole. Donc, en fait, leur approvisionnement aussi en nourriture est géré quelque part par le Capitole.
Bon, et globalement, ils meurent tous de faim. Enfin,
ah
là,
oui, ils meurent tous de faim.
District 12, ça, c'est très... elle décrit très bien ça, cette
en fait,
pauvreté.
Ça s'est inspiré des systèmes, un peu tous les systèmes totalitaires qui avaient des grands espaces comme les Russes ou les Chinois à une époque. En fait, les ressources sont centralisées et redistribuées. C'est-à-dire qu'ils envoient tout au Capitole et le Capitole redistribue. Et forcément...
ou pas, du coup.
Ouais, ou pas.
Ou pas.
Et donc, en fait, ils n'ont pas du tout, même pas une fraction de ce qu'ils ont. En fait, c'est vraiment pas eux qui gèrent ça. Ouais. Et comme elle le dit Katniss, en fait, ils survivent principalement de braconnage ou de trucs comme ça, parce que sinon, ils meurent de faim, en fait.
Ouais, ouais. Bien sûr, le Capitole s'en fiche. Et je sais pas si vous avez remarqué, mais du coup, pour la création de cet univers dystopique, Suzanne Collins, elle s'est notamment inspirée de la Rome antique. Par
oui,
exemple,
il y a plein de références, oui.
Avec le nom de Panem, par exemple.
Ah, moi je pensais plutôt à la Panaméricaine, mais bon.
Non,
ouais. Pas... avec le Capitole aussi.
Ouais, mais Panem, oui, non, Capitole. ça vient d'une formule romaine, Panem et Circenses, qui veut dire du pain et des jeux. Et en fait, c'était une référence au centre d'intérêt des Romains à l'époque, du pain et.
Ah, moi j'avais pas du tout pensé à ça, moi je pensais plutôt à Panaméricaine, dans le sens ça regroupe un peu tout le continent américain du Nord, et ils appellent ça du coup les Panamérique.
Bah après, ça fait sens, mais pour le coup, je crois que l'inspiration principale, pour le coup, c'est vraiment...
Oui, parce qu'on peut voir aussi un parallèle avec les jeux des gladiateurs.
Ouais,
etc.
C'est exactement ça. C'est clairement une référence, les Hunger Games, aux jeux des gladiateurs. Et même le Capitole, oui. À la base aussi, c'était la colline où régnait le pouvoir à Rome et qui a donné aussi son nom à Capitol Hill, à Washington, qui est toujours aujourd'hui l'endroit où on trouve le congrès des États-Unis. Et même en plus, les pacificateurs, donc qui sont un peu les forces militaires armées de Panem et qui sont envoyées dans chaque district pour maintenir l'ordre, elles évoquent un peu les légions romaines en fait qui étaient là pour asseoir le pouvoir.
Ils sont quand même pas loin des SS aussi. Hein.
Oui, non, mais bien sûr. Bien sûr. Et même le nom du président Coriolanus Snow s'est aussi inspiré d'un homme d'État et général romain qui s'appelait Caius Marcus Coriolanus et qui a essayé d'ailleurs de renverser la République romaine à l'époque.
Ouais, donc c'est bourré de références.
Ouais, c'est bourré de références. Et ce président, le président Snow, on le voit quasiment pas dans ce premier tome. Mais voilà, on comprend que c'est un dictateur et qu'il fait régner l'ordre et la terreur à travers Panem.
Oui, puis qu'il y a un côté culte de la personnalité.
Ouais.
Il est présent, c'est pas que le Capitole, c'est-à-dire sans lui, tout s'effondre. C'est lui qui arrive à lier, il faut le remercier de réussir à fédérer tout le monde. Enfin, il y a tout un truc autour de ça.
Oui, et puis il faut limite le remercier d'avoir fait les Hunger Games, parce que c'est ça qui permet de maintenir la paix dans Panem. Et donc les Hunger Games, on va faire un petit point aussi sur qu'est-ce que c'est et comment ça fonctionne. Donc comme on l'a dit, c'est inspiré des combats de gladiateurs. D'ailleurs, ça se passe dans une arène. Et comme les gladiateurs, les tribus qui sont envoyées là-bas sont sponsorisées par des gentils bienfaiteurs qui leur donnent à manger ou des médicaments à leur bon vouloir. Et du coup, comment ça se passe? Comment sont choisies les tribus dans les districts?
Bah, il est tiré au sort, en fait. Et en gros, il y a toute une mécanique où vous pouvez vendre un ticket avec votre nom contre de la nourriture. Donc, ce qui veut dire que, par exemple, contre X grains de sac de grains, et ben, en fait, votre nom apparaît une fois de plus. Mmh. Et donc, en gros, les pauvres ont plus de chances d'apparaître parce que pour survivre, bah, ils rajoutent leur nom. Et les riches revendent leur ticket. C'est-à-dire qu'en gros, pour enlever un ticket, bah, ils payent quelqu'un.
Pour avoir un ticket à sa place.
Voilà, donc en fait, c'est toute une espèce de mafia qui, bon, globalement, protège toujours les plus puissants et les plus riches. Et les pauvres, ils expliquent qu'il y a un des personnages, là, à ses 18 ans, son nom, il apparaîtra 54 fois. Fin...
C'est ça, le truc aussi, c'est que ce qui est hyper cruel dans les Hunger Games, c'est que ce sont que des enfants entre 12 et 18 ans qui peuvent être tirés au sort.
Dès 12 ans, on peut être tiré.
Et c'est la grande punition, en fait, du Capitole contre les districts.
Et même le terme tribu, ça veut dire que c'est donné, en fait, tu ne le reverras pas. Hein. Non. C'est dans les noms... c'est...
Il y a l'idée de sacrifice hein, qui est
ouais,
très présente.
Ça. Ouais, c'est ça, c'est... Ils sont donnés en sacrifice
mais
pour maintenir la
y a le... On peut parler du slogan, on va dire, des Hunger Games.
Vas-y.
Qui est « May the odds be ever in your favor », en anglais.
Ouais, et... que le sort puisse vous être favorable en français.
Voilà, et parce qu'ils considèrent que c'est que dû au hasard si votre nom est tiré... pour les Hunger Games, mais voilà, comme on l'a dit avant, en fait, pas tellement. Enfin, je veux dire, le hasard joue peu face à la pauvreté, etc.
Dans les districts les plus puissants et les plus riches, ils se préparent, en fait.
Ouais.
Il y a ce qu'ils appellent les tribus de carrière. Donc, c'est des gens qui sont sélectionnés dès leur plus jeune âge. Et le but est de gagner. Parce qu'en fait, une fois que tu as gagné les Hunger Games, tu as globalement une vie assez cool qui se déroule. Quoi,
et c'est surtout pour le prestige, hein, ceux-là.
Et puis la thune aussi. Hein.
Non, mais eux, ils sont globalement quand même assez riches, souvent. Mais c'est surtout le ramener le prestige à ton district, ouais, parce que ça. Aussi si tu gagnes les Hunger Games, ton district est un peu auréolé de gloire pendant un
et
an.
Et aura à manger aussi.
Aura ouais. à manger, oui voilà, chaque personne aura à manger.
C'est ça qui est horrible, donc c'est ça qui motive aussi la victoire, c'est que pour pouvoir juste avoir à manger. Donc c'est vraiment jusqu'au bout, c'est...
Grosse pression.
Voilà. On va rentrer un peu plus dans le vif du sujet et notamment parler de Katniss Everdeen qui est donc l'héroïne de Hunger Games. En fait, le livre, il est écrit à la première personne, donc on est vraiment dans sa tête d'un bout à l'autre. Elle a 16 ans, elle vit dans la Veine, qui est le quartier le plus pauvre du district 12, donc c'est vraiment...
Le fond du fond.
Ouais, c'est horrible. Et en plus, elle est orpheline de son père depuis ses 11 ans parce qu'il est mort à la mine.
Ambiance.
Coup de grisou.
Ouais, on croirait dans Zola tout de suite. Et du coup, sa mère, elle est tombée dans la dépression à ce moment-là, et donc c'est Katniss qui a dû assurer la survie de sa famille.
Et de sa petite sœur, elle ouais. s'occupe de sa petite sœur qui a 12 ans du coup.
Ouais, donc elle a 4 ans de moins qu'elle, sa petite sœur. Et du coup, c'est comme ça qu'elle s'est mise à la chasse, et notamment avec son ami Gale, qui est son meilleur ami. Je vois Pascal me faire un petit sourire. Il n'y a pas de love interest entre eux. Au départ, ils sont vraiment amis sans ambiguïté. Mm. On peut le dire.
Pas convaincu.
Non, mais si, oui, ils sont un peu. Ils ont d'autres préoccupations que ça.
Survivre, c'est voilà. déjà pas mal.
Survivre.
Et en fait, ce qui est intéressant avec Katniss, c'est que, voilà, elle a vraiment pas ce genre de préoccupations. Elle est hyper pragmatique et courageuse, voire cynique, en fait. Et par exemple, il y a un passage au début du livre où elle voit un lynx dans la forêt et elle se dit. Ah, il est beau et tout, mais en fait, elle le tue.
Parce qu'au marché noir, ça rapporte
bah,
beaucoup.
Ouais. Et en fait, elle dit, ouais, en soi, il n'était pas de mauvaise compagnie, hein, mais déjà, il effrayait les petits animaux qu'elle tue au quotidien, quoi. Mm. Et du coup, elle dit, j'ai eu un bon prix pour sa peau.
Oui, parce qu'elle vit du braconnage. Elle vend le fruit de son braconnage au marché noir de la Veine, qui est un endroit un peu glauque aussi.
Ouais, braconnage qui est d'ailleurs tout à fait illégal, hein.
Oui, et elle risque en fait d'être raflée par...
Par les pacificateurs.
Voilà.
Ouais, sauf qu'en fait, on voit que les pacificateurs, eux, ils s'approvisionnent auprès de Katniss.
Ouais, mais tu t'es quand même sous le joug. Si le mec, il décide de faire sa tête de con un jour, t'es condamné à mort.
Clairement.
Donc, bon.
Clairement, c'est...
C'est un levier de pression non négligeable.
Oui, c'est tant qu'elle est utile et qu'elle ne pose pas de problème, il laisse faire son business, quoi. Arrêtons-nous deux secondes aussi sur le nom de Katniss Everdeen. Katniss, vous savez d'où ça vient comme mot ?
Non.
Mais en fait, c'est une plante, tout simplement.
Ils le disent en anglais.
Ah oui, c'est vrai qu'ils le disent. Oui.
Ouais. Et en anglais, cette plante, elle est aussi connue sous le nom de Arrowhead, donc tête de flèche.
Ah, parce que voilà, elle est aussi très douée au tir à l'arc.
Voilà, et c'est comme ça en fait qu'elle tue aussi son gibier dans la forêt quand elle chasse. Et son nom de famille, il fait référence aussi à une autre héroïne de roman très connue, Bathsheba Everdeen, dans Loin de la foule déchaînée, de Thomas Hardy.
Ah, d'accord, ok.
Voilà, et en fait, c'est une volonté de Suzanne Collins, parce qu'elle dit que toutes les deux héroïnes sont très différentes, mais elles sont fortes et elles savent se défendre.
J'ai pas la ref.
Voilà. Moi, j'avais vu le film, mais j'ai pas lu le livre.
Mais du coup, on voit vraiment tout Panem à travers son prisme à elle. Et on se rend compte à quel point elle est pauvre. À un moment, elle dit qu'elle a mangé qu'une orange dans sa vie.
Enfin... Et il ne voyage absolument pas. C'est même de souvenir interdit d'aller dans un autre district.
Non, le district, il est emmuré, en fait.
Ouais, c'est enfin, ça. Ils peuvent pas... à part pour une raison où le gouvernement t'enverrait, ils ont pas le droit de sortir de leur district.
Voilà. Et elle est très attachée à sa petite sœur, à sa mère et à son meilleur ami, Gale. Donc, sa mésaventure commence lors de la moisson, donc, qui est la grande cérémonie du tirage au sort pour les Hunger Games. Là, au moins une quinzaine ou une vingtaine de fois son nom dans la boule de tirage au sort. Donc elle se dit, bon bah voilà, il y a quand même des chances que j'y passe.
Mais elle reste, je trouve, en maîtrise d'elle-même, toujours. Ouais. Parce que par exemple, sa petite sœur est plus paniquée. C'est la première fois que son nom est mis dans la boule, parce qu'elle a 12 ans. Et elle la rassure, etc. Alors qu'elle a plus de chances d'être tirée au sort. Ouais, je trouve qu'elle est vraiment, elle reste très sereine.
Mais du coup... Complot de malchance pendant la cérémonie, c'est son nom à elle, enfin le nom de sa petite sœur qui se fait tirer au sort. Ça donne une scène un peu horrible où elle voit sa petite sœur partir genre vers l'estrade accompagnée par les pacificateurs et décide de prendre sa place, mais un peu sur une impulsion quoi. Sur une...
I volunteer as tribute.
Ouais, parce que si tu te portes volontaire, ils ne peuvent pas refuser, je crois.
Ouais, c'est ça. Mais sauf qu'en fait, il n'y a jamais de volontaire dans le district 12.
C'est la première volontaire du district 12.
Par contre, il y a une question que je m'étais posée et ils répondent pas, je crois, s'il y a plusieurs volontaires. C'est le premier ?
Ah.
Ouais, enfin, je crois que tout le monde ne se porte pas volontaire au Hunger Games.
Ah non, mais par exemple, dans les districts de carrière, vrai, par exemple, tu vois. Il peut y en avoir deux du même âge.
Bonne question.
Ouais, ça se pose. Hein.
Suzanne, tu laisses des parts d'ombre dans ces explications.
Peut-être qu'elle le dit dans les tomes 2 et 3 et on s'en souvient plus. C'est possible aussi. Et le tribut garçon, du coup, qui est choisi ? C'est Pita Mellark, qui est le fils du boulanger. Mais arrête de me regarder comme ça, Pascal. Et donc lui, il a grandi quand même dans un quartier un peu plus favorisé. Comme il était le fils du boulanger, il avait quand même un peu plus à manger à sa faim. Et surtout, Katniss s'en souvient très bien parce qu'il l'a aidée quand elle était plus jeune.
Oui, c'était juste au moment où son père venait de mourir. Donc elle s'était vraiment retrouvée sans ressources assez vite à s'occuper de sa mère dépressive et de sa petite sœur. Donc c'était très dur. Au moment où elle se retrouve, elle est sous la pluie dans la rue... à même le sol, enfin les désespérés.
Ça va pas trop.
Hein ?
Je dis ça va pas trop dans cette
vie. Non, ça va pas trop et elle est proche de la boulangerie et puis là, du coup, Pita l'aperçoit et lui balance une miche à moitié cramée, mais voilà, qui est quand même mangeable et c'est vraiment le plus beau cadeau qu'on puisse lui faire à ce moment-là. Donc.
Et c'est à partir de là aussi qu'elle s'est dit qu'elle allait essayer de survivre, quoi, de vraiment se battre.
Ça lui a redonné espoir. Oui, c'est ça. Ça a été un tournant un peu dans sa vie. Cette offrande du pain, c'est beau.
Et le garçon des pains. Donc tous les deux avec Effie Trinket, donc, c'est une personne qui vit au Capitole mais qui est envoyée dans le district 12 pour superviser justement la moisson et les Hunger Games, qui est très flamboyante,
excentrique
voilà. Et donc elle est là pour les encadrer, ainsi que Hamish Abernathy, qui est un ancien vainqueur du district 12.
Le seul en vie.
Ils disent qu'en 74 ans, il n'y a eu que deux vainqueurs dans le district 12. L'un est mort. Et le deuxième, c'est Hamish, qui
fait une entrée en scène époustouflante.
Ouais.
il arrive ivre mort, du coup, pendant la moisson, quoi, et il se casse la gueule de l'estrade, tellement il est bourré.
Ouais,
donc ça présage quand même de bons conseils.
Ouais, c'est ça. Bah, Katniss, elle se dit, bah, super, je vais pouvoir compter sur mon mentor. Sauf qu'au début, du coup, on est un peu inquiet, mais en fait, on se rend compte qu'aussi, Hamish, il est complètement en PTSD. Enfin, il souffre, je pense...
On le sait pas tout de suite. Enfin, je trouve que c'est un personnage assez complexe et on en apprend plus au fur et à mesure. Et aussi dans les autres tomes, mais au début, il paraît quand même comme le gros alcoolo de service qui servira à rien, quoi. Au tout début.
Ouais, mais comme, enfin, je sais pas comment en fait c'est lié.
Il arrive quand même dans le train, il vomit, hein.
Oui. Voilà. Ouais, ouais. Pita est censé le doucher et tout. La classe internationale.
Ouais, il faut une salle douche façon prison, là, en mode.
Après, aussi, ce qu'il explique, et Mitch, c'est que il croit pas du tout en la victoire de Katniss et Pita parce qu'il dit en fait, chaque année, je m'occupe des tribus. Et que chaque année, les tribus du district 12, comme ils sont sous-alimentés, bah, ils perdent. C'est horrible. Et du coup, en fait, il est devenu hyper cynique parce que chaque année, il les voit mourir et du coup, il...
Puis, à tous les côtés, en fait, c'est le cercle vicieux. C'est-à-dire que les districts les plus riches, ils sont préparés. Donc, ils ont plus de sponsors. Donc, ils sont plus aidés.
Ils ont
donc
plus
ils ont
de vainqueurs.
De gagner, voilà.
Oui. Et ces vainqueurs-là peuvent les aider. Fin... Et voilà. Et du coup, c'est assez drôle parce qu'on voit aussi la transition entre le district 12 et le Capitol où c'est... un énorme changement d'ambiance où on se rend compte que le Capitole ne connaît pas du tout la fin. Ils vivent dans un monde de technologie où ils
Il y a un énorme contraste. C'est impressionnant. Quand ils rentrent dans le train, ils sont émerveillés par ce luxe du train, par toute l'abondance de nourriture aussi. Ils n'ont jamais vu ça de leur vie. Et après, ils voient par la fenêtre, quand ils arrivent au Capitole, c'est la folie, quoi.
En plus, Effie Trinket, elle leur dit, ouais, les districts sont un peu barbares. L'année dernière, les tribus, ils savaient même pas se tenir à table. Et du coup, c'est
ils mangent avec les mains.
Ouais, ils mangent avec les mains. Du coup, ça t'avait fait rire, ça, Hugo.
Ouais. Du coup, Katniss, elle se met à bouffer avec ses mains.
C'est un peu une badass,
juste...
en vrai.
Ouais, juste pour... Ouais. Parce que ça la saoule, en fait, ce genre de remarque, alors qu'il meurt de faim.
Ouais.
Mais après, c'est du déni, on va dire, classique des élites de représenter dans ce genre de dystopie. Ils vivent dans un truc... Et en fait, ils croient ce qu'on leur dit et ils se rendent pas compte forcément que...
Oui, c'est ça, ils se rendent pas compte de comment ça se passe ailleurs et ils se posent pas de questions, en fait. Ouais. Ils s'en fichent. Enfin, on le voit quand Katniss, elle arrive au Capitole. Déjà, comme on le dit par le train, il y a genre la foule qui est là, qui leur fait signe, qui est trop content qu'ils soient là, alors que littéralement, ils viennent pour mourir. Mm. Enfin, c'est hyper cynique.
Et puis, il y a pas de tribu du Capitole.
Non, en plus. Donc eux, ils savent pas ce que c'est, ils sont vraiment là en spectateur. Et c'est là aussi que Pita, il commence à devenir un peu ambivalent. Parce qu'il commence à genre faire signe à la foule, à faire un peu un rôle de mec hyper sympathique et tout. Et du coup, comment.
Et Katniss comprend pas trop.
Ouais. Et elle commence à être hyper dubitative par rapport à Pita, quoi. Elle se dit, ouais, il va être dans la manipulation, en fait.
Mais ce qui est cohérent, parce que si personne t'aime, il y a personne qui t'aidera.
Oui, bah c'est ce que. Après, Mitch, tout le monde essaye de leur expliquer, c'est il faut que les gens vous aiment, en fait. Donc faites-vous aimer.
Il faut
créer
de l'intrigue.
C'est toute une stratégie aussi, avant, pendant.
C'est ça. Et par rapport au Capitole aussi, du coup, quand ils se font préparer, genre, il y a les personnes qui s'occupent de laver, de maquiller Katniss, qui lui disent « Ah, c'est bien, toi tu restes calme, on ne supporte pas les pleurnicheries de certains tribus, etc. » Et pareil.
Et elle dit, elle comprend pas, il l'épile et tout, partout.
Ouais, et en lui faisant des remarques hyper cyniques, c'est horrible. Et pareil, le principe des Hunger Games, donc, c'est que comme c'est un jeu de télé-réalité, tout le monde, toute la nation est obligée de regarder. Sauf que dans le Capitole, comme ils ne se sentent pas concernés, eux, ils le vivent vraiment en mode, ils font des paris et tout sur qui va gagner. Et,
c'est un show.
C'est un show. Et du coup, il doit faire des interviews au début. Avec donc le célèbre présentateur Caesar Flickerman pour qu'il puisse se présenter et que tous les spectateurs puissent s'attacher à eux. Et c'est hyper cruel en fait quand on y pense. C'est que les gens ils sont là pour garder en mode pour tenir pour des personnes, mais des enfants qui vont littéralement être envoyés dans l'arène pour mourir. Et du coup, Mitch, quand il coach Katniss, il lui dit oui, il faut que tu leur donnes des éléments sur toi, qu'ils apprennent à te connaître pour t'apprécier et tout. Et elle a dit « Mais je ne veux pas qu'ils me connaissent, ils me prennent déjà mon avenir, ils ne vont pas me voler ce qui a pu compter pour moi dans le passé. » Et tu te dis « Mais c'est horrible. »
Ouais, mais c'est cohérent avec le... Même avec les gladiateurs au temps des Romains. Il y avait vraiment des vraies stars où, au final, c'était que des esclaves.
Mais il y a aussi l'image qui joue, en fait. Dans
ils étaient élevés au rang de stars. Et pour citer Proximus dans ce merveilleux film qu'est Gladiator, c'est « Plaie à la foule et elle te le rendra. » Donc, en fait, c'est le même concept. Oui. C'est que si tout le monde te trouve apathique, te trouve désagréable et tout, ce qui peut se comprendre quand t'es envoyé littéralement à la mort, c'est foutu d'avance. T'as aucune chance de t'en sortir.
Mais c'est ce que Hamish n'arrête pas de répéter à Katniss. Il essaie de la coacher et il dit « Mais je m'en sors pas avec toi. T'es désagréable, t'es cynique. Moi, je suis désespérée. Je sais plus quoi faire. Je sais plus quelle tactique adopter. » Donc finalement, bon, elle passe son interview et elle est naturelle, elle raconte des histoires un peu émouvantes sur sa sœur et ça passe. Et il y a aussi quand même, on en parle, de ses tenues. Ça, c'est aussi important.
Ouais, ouais, ouais.
Dans l'image,
ça, ouais.
Y a son... ils ont chacun des stylistes personnalisés et donc elle, elle tombe sur Sina, qui est aussi un personnage assez intéressant et qui leur prépare pour la parade d'arrivée de tous les tribus, de présentation en fait de tous les tribus, une tenue qui s'enflamme littéralement. Bon, c'est des flammes qui sont fausses, mais...
Mais ça pète le style.
Voilà, et du coup, ils sont... tout le monde est ultra impressionné par ça. Ils font tout de suite grande impression par rapport aux autres candidats.
Et c'est la première fois que des tribus du district de 12 aussi impressionnent le public.
Voilà, c'est ça. Et après, pareil, pendant l'interview, elle a une robe qui, quand elle tournoie, fait des flammes. Enfin, c'est...
Ouais, mais après, c'est pas seulement ça qui marque l'interview, c'est aussi l'interview de Pita qui...
Oui.
Qui, là, qui affirme qu'il est en fait... il a des sentiments pour Katniss, quoi. Et donc, c'est tragique. Parce qu'ils sont tous
plot twist.
Ouais. Bon, là, c'est pas un spoil, hein. C'est vraiment au tout début. Mais du coup, là, elle est furieuse parce qu'elle se dit vraiment, il me manipule. Enfin...
Ouais, elle est énervée et Mitch lui dit, mais... Il t'a rendu service, en fait. Là, il t'a rendu désirable, et c'est ce qu'on veut.
Ouais.
Et il essaye de lui mettre ça dans la tête.
Bah, si on rajoute une intrigue en plus, eux, ça leur convient.
Ah oui, oui, bah oui. Bah, c'est comme la
et surtout que c'est un peu l'amour impossible, parce que malgré le fait qu'ils viennent du même district, il ne peut en rester qu'un.
Ouais. Donc aussi, pendant qu'ils sont au Capitole, ils s'entraînent, ils rencontrent les autres tribus. Bon, ça se passe pas forcément très bien. Ils se rendent compte qu'ils sont clairement sous-entraînés.
Il y a des mecs qui sont là, ils sont pas là pour enfiler ouais. des perles, quoi.
Ouais. Il y en a, tu les vois
et
sortir
en plus,
le gerlot.
Ils regardent d'un air hautain, ils sont condescendants, c'est insupportable.
Tu vois déjà à la cantine que les tribus de carrière, ils commencent à se mettre ensemble, à faire des plans et tout. Donc Katniss, elle se dit, ok, c'est mal
barré.
Parce
qu'il y a rien qui interdit de se mettre en équipe
ouais.
pendant un certain temps.
Ouais.
La seule règle, c'est qu'ils peuvent rester qu'un, quoi.
Ouais. Et c'est à peu près vers la moitié du livre quand même avant que les jeux commencent pour de bon, où vraiment elle est envoyée dans l'arène. Et voilà, on va peut-être pas trop en dire sur ce qui se passe dans l'arène, mais c'est ils sont envoyés dans une espèce de forêt. Et donc déjà, quand même, le Hunger Games, on va juste dire comment ça commence. Ils sont envoyés tous dans une espèce de clairière au milieu de laquelle il y a une...
La corne d'abondance.
Voilà. Et en fait, dans laquelle ils ont mis des armes, des sacs à dos.
La nourriture, tout ce qui peut les aider à survivre pendant les jeux. Et sauf qu'en fait, c'est la boucherie, hein, on peut
ouais.
le dire.
Pour ceux qui ont la ref, ils jouent en mode le roi de la colline. Celui qui récupère le... C'est un mode de jeu dans certains jeux vidéo. Et si tu arrives à garder la colline, tu as la corne d'abondance, donc tu as des bonus. Mais le problème, c'est que tout le monde va vouloir y aller. Et là, c'est un peu le même concept.
Ah,
ah c'est
pas
intéressant.
Du tout.
Ouais, et Mitch, d'ailleurs, il dit à Katniss de ne pas y aller. Parce que c'est un bain de sang. Et voilà,
là, c'est vraiment les plus forts qui tuent les autres et puis qui récupèrent un peu tout le pactole.
Puis du coup, ouais, c'est double gain parce qu'ils ont de la bouffe, ils ont des armes. Parce qu'en fait, le plus dur aussi, c'est pas seulement de survivre aux gens, c'est de survivre tout court. Parce qu'ils ils ont rien à manger, il faut qu'ils chassent.
Ce qu'ils disent au début, c'est qu'il y en a plein qui meurent de faim, de déshydratation.
Je crois que c'est plus de la moitié, ils disent.
De piqûres, enfin de plein de trucs en fait.
Ouais.
Qui sont pas forcément dus aux autres candidats.
C'est ça le pire. Parce qu'en fait, comme la reine, elle est orchestrée, on comprend, par les juges des Hunger Games, en fait, c'est un peu artificiel. C'est-à-dire qu'ils peuvent faire la pluie et le beau temps littéralement. C'est eux qui designent la reine. À un moment, Katniss, il décide qu'elle est un peu trop planquée en mode survivaliste dans son coin. Du coup, il lui envoie des boules de feu.
Oui, en fait,
voilà.
Ils réduisent.
Tout simplement.
Voilà, ils réduisent le rayon de la reine. Et ouais. En réduisant la zone, forcément, les gens se rapprochent ça crée du combat.
C'est ça, en fait, ils veulent les obliger à la confrontation. Il y a aussi, ils utilisent aussi des animaux mutants, comme les guêpes tueuses.
Ignoble, ça.
Ignoble.
Et ça donne quand même des scènes très violentes.
Ouais.
Enfin, je trouve qu'à la lecture du livre, il y a des passages qui sont, bah, quand même. Enfin, je veux dire...
Ça va quand même.
Non, mais t'as vu ton âge. Enfin, je veux dire, c'est un livre, tu peux le lire à 12 ans, c'est quand même un peu violent. Enfin...
Ouais, moi, il y a une scène que j'aime bien. Voilà, mais oui, avec les guêpes, c'est un peu trash.
Non, mais je veux dire, c'est on peut pas nier qu'il y a de la violence dans ce livre, mais qui représente bien la réalité du jeu. Mais il y a quand même plusieurs passages. Même, il y a des passages quand il y en a qui se battent entre eux, où c'est un peu violent quand même. Passage ouais. des chiens, hein, tout comme ça, c'est quand
ah,
même pas...
Ah, mais moi, j'aime ouais. pas ce passage.
Les pierres dans la tête, le pieu. C'est...
le pieu, c'est pas mal.
Le pieu, c'est horrible. Bref, on vous dit pas qu'il meurt, évidemment, mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que Katniss, c'est là qu'elle montre aussi ses skills. Enfin, elle est hyper ingénieuse, elle sait chasser, elle sait se camoufler, elle se planque dans les arbres.
Enfin, c'est surtout Pita qui sait se camoufler.
Oui, d'accord.
Parce qu'il a fait le glaçage des gâteaux
si...
à la boulangerie. Et du coup, c'est un pro du camouflage.
Je sais pas si c'est un spoil, mais il sert pas à grand grand-chose. C'est...
Ouais, mais pareil, enfin, pendant longtemps aussi, elle se pose des questions quand même sur lui, parce que elle sait pas s'il est contre elle, avec elle. Enfin, bref, en tout cas,
Katniss, faudra lire le livre.
Voilà, il faut lire le livre, mais Katniss, elle montre ses ingéniosités. Elle fait aussi des alliances, notamment avec la petite roue du district 11. Mais ouais, en tout cas, il y a des passages assez violents quand même dans Hunger Games, même si, bon, ça reste quand même de la littérature jeunesse, évidemment.
Oui, mais ça fait du bien comparé à des bouquins comme Harry Potter, où t'as toujours l'impression qu'ils sont là à se dire des gros mots pour se battre. Je trouve qu'au moins, là, c'est assez réaliste.
C'est encore pas le pire. Pour le coup, Harry Potter, ça évolue vraiment oui. en termes de noirceur.
Les derniers sont plus sombres. Quand
même. On rappelle
qu'à la fin, il y a un mec qui meurt vite.
Hugo n'a lu que les 4 premiers tomes, donc il peut pas comprendre.
Alors moi, Harry Potter, le 4e tome, j'ai lu, j'étais quand même assez petite, et franchement, j'avais trop peur dans mon lit. Hein, donc,
ouais, mais voilà. Ça y est, il y a Cédric qui meurt au bout de 4 épisodes. À un moment, oui, bah, il faut bien qu'il y ait des morts. Hein.
Bah, en tout cas, ces passages violents dans Hunger Games, Suzanne Collins, donc l'autrice, elle a dit que les passages de mort et de combat un peu violents étaient vraiment très dur pour elle à écrire. Elle dit que voilà, pichoune. il fallait qu'elle les accepte parce qu'elle se disait oui, c'est nécessaire quand même à l'histoire.
Ouais, bah, c'est le concept, pas le concept du livre, on l'a pas obligé.
Non, mais,
non, mais après, c'est, je trouve que c'est bien fait parce que comme elle écrit à travers les yeux de Katniss,
ouais.
on ressent bien quand même ce que Katniss vit. Je trouve que c'est bien écrit dans ce sens-là. Ça fait bader les trucs de la brûlure et tout. Enfin, il y a plein de passages où.
Ah oui, ça c'était trash.
Il y a des passages où, ouais, Katniss, elle est tellement amochée, ouais. quoi.
Et en plus, elle sait que la clé c'est la survie. Donc, je sais pas, voir la violence à travers ce prisme, c'est assez intéressant.
Puis, même Katniss, elle va pas hésiter à tuer. Donc, ça c'est quand même, je dis pas qui, mais que c'est quand même assez inédit aussi dans des romans de littérature jeunesse. T'as toujours un petit peu la question morale qui se pose en mode non, je ne pourrais jamais tuer quelqu'un. Et en fait, Katniss, finalement, elle se pose pas de questions. Elle se dit, bon, bah, à un moment, il va falloir y aller quand même.
Ouais, là-dessus, il n'y a pas d'ambiguïté. Ouais.
C'est ça. Et comme en fait, elle est habituée aussi à se battre pour sa survie depuis toujours, ce qui est bien, c'est qu'elle ne passe pas quand même non plus 3 ans à se poser des questions sur la moralité de ses actions. Donc, ça, c'était. C'est assez cohérent, je trouve, dans l'histoire. C'est assez rafraîchissant, même si c'est... On est d'accord que c'est horrible et c'est cynique. Hein. Bon, je pense qu'on a fait le tour du livre Hunger Games. On vous en dit pas plus parce qu'on ne veut pas vous spoiler. Vous avez aimé, vous, ou pas, le relire ou le découvrir tout court ?
Bah, moi, j'ai beaucoup aimé le relire, en fait. J'étais un peu surprise parce que je me suis dit, oh, je l'ai déjà lu, mais j'ai lu il y a 10 ans, donc je m'en souvenais plus dans le détail. Et j'ai pris plaisir à le relire, donc c'était sympa.
Et moi, je l'avais jamais lu et je suis pas du tout porté littérature jeunesse. Je trouve ça toujours un peu gnangnan ou justement trop soft ou improbable. Et j'ai beaucoup aimé. Je trouvais que justement, à part certains moments, notamment à la fin, ça joue pas sur des relations amoureuses ou des trucs à la fin que je trouve un peu nunuche comme ça. Et non, c'est straight to the point. Et ouais, il y a certains passages de survie qui sont hyper bien. Et moi, j'étais dedans. J'ai eu ça en vacances et honnêtement, j'étais à fond dedans. Et je vais entamer le deuxième dans pas longtemps.
Ah oui, donc t'es à fond à ce point-là.
Non, je suis à fond. Alors après, à la fin du 1, je suis un peu saoulé quand même sur certains trucs. Et bon, là, j'espère que ça atteindra pas trop sur ça, quoi.
Ok. Non, moi, c'était du coup une relecture aussi, sauf que moi, je l'avais pas lu il y a 10 ans, j'ai lu il y a seulement 4 ans. Et en vrai, j'étais quand même dedans. Enfin, je me suis vraiment très vite replongée dans l'histoire. C'est quand même vraiment bien écrit. C'est écrit comme de la littérature jeunesse, donc on va pas s'attendre non plus à... Enfin, c'est pas hyper compliqué, c'est bien fait et surtout c'est hyper rythmé. T'as pas de temps mort.
Ouais, c'est vrai.
C'est prenant, franchement, c'est prenant.
Tu t'ennuies pas et c'est assez cohérent. Il y a quelques trucs où on peut des fois se poser des questions, mais honnêtement, ça se tient.
Et moi, j'étais à fond. Hein. Franchement, je l'ai relu, j'étais au taquet.
Ah, moi, j'ai eu des frissons. La scène juste avant qu'elle entre dans l'arène, quand elle dit, elle est plongée dans le noir et elle sent la plaque qui se lève. Moi, j'avais, mais vraiment, les chills. J'étais en mode, oh mon dieu.
Et en plus, ils se regardent, ils se voient pendant 60 secondes. Pendant 60 secondes, ils n'ont pas le droit de bouger. Ouais. Et d'un coup,
Ouais, et puis elle voit Pita qui, genre, secoue la tête en mode, non, n'y va pas. Parce qu'il voit très bien qu'elle hésite. Parce que du coup, elle voit tout ce qu'il y a dans la corne d'abondance. Et elle sait qu'on lui a dit, non, n'y va pas, sauve-toi. Et du coup, elle hésite. Et ce qui est bien aussi, c'est que Katniss, elle est badass, mais elle fait quand même des grosses erreurs.
Oui.
Oui, bah,
ça la rend humaine.
Elle a des fêlures.
Voilà. Non, mais elle fait parfois des grosses boulettes qu'elle paye très cher. Mais au moins, c'est cool.
Bah non, mais oui, voilà, on voit que c'est une héroïne qui est humaine et qu'elle a des émotions, qu'elle est indécise. Enfin voilà, elle se pose plein de questions. Mm. Mais dans sa tête, elle se pose tout le temps plein de questions.
Ouais.
Que ce soit sur les jeux, sur Pita, sur plein de trucs. Enfin, je trouve qu'on sait jamais sur quel pied danser avec elle. Elle est...
Après, ce qui motive aussi sa survie, c'est qu'elle sait que sa sœur et sa mère la regardent à la télé, quoi. Donc elle se dit, je ne peux juste pas mourir d'une façon bête Donc ma sœur me regarde.
Non, puis ce qui est bien aussi, c'est que ils construisent aussi un gros méchant, quoi. Il y a un groupe de personnes qui est vraiment dangereux dans l'arène, parce qu'il y a plein de random kids qui vont mourir assez vite, on va dire.
Oui, on connaît même pas leur nom.
Voilà, et en fait, il reste que les meilleurs à la fin. Et vraiment, je trouve que la façon dont quelques personnes sont présentées, ils font vraiment flipper, quoi.
Ouais.
Les mecs, ils sont là pour
un Kato.
Ouais, bah, je voulais pas citer au cas où c'était du spoil, mais Kato, c'est clairement le psychopathe de service. Et voilà.
Ils font plaisir à
c'est ça. Et
torturer
lui,
les
il
gens.
Est là, il est là pour gagner, quoi. Ah. Et surtout, il est entraîné et il est pas dans la panique comme tous les autres, quoi. C'est froid, c'est calculé. Et ça, j'ai bien aimé, quand même.
Le côté un peu psychopathe, ça te plaît?
Non, mais le côté qui est un méchant, que ce soit pas elle toute seule dans son coin qui essaie de survivre à manger des graines, tu vois.
Ouais, ouais, clairement.
Que elle sait que si elle tombe dessus, c'est mal barré.
Ah ouais,
quoi.
Ça va mal se passer. Après avoir écrit ce premier tome, Suzanne Collins, donc la soumise à une maison d'édition scolastique, qui a tellement vu le bon filon, qu'ils lui ont proposé un contrat de 3 livres à 6 chiffres.
C'est pas mal quand même.
Ouais. Le premier tome a été publié aux États-Unis le 14 septembre 2008. Les droits, en plusieurs mois, ont été vendus dans 38 pays.
Mon rêve.
Et Hunger Games a fait partie de la prestigieuse liste du New York Times best-seller en novembre 2008, où il est resté plus de 100 semaines consécutives.
Pas mal, presque 2 ans. Ouais.
C'est énorme. C'est vraiment un énorme succès, surtout pour un roman jeunesse. D'ailleurs, cette saga, parce qu'il y a eu ensuite du coup un deuxième tome, L'Embrasement, et un troisième tome, La Révolte, qui sont sortis assez vite dans la foulée. Hein. Je crois que le deuxième tome, c'était 2009, un an après, et le troisième tome, encore un an après. Donc elle les a vraiment écrits très vite. Et la saga a eu beaucoup de fans célèbres, et parmi eux, Stephen King, qui a vraiment dit que c'était bien, et Stephanie Meyer, l'autrice de Twilight.
Oh non.
Et si.
Please.
Si, bah en plus c'est drôle parce que la saga Twilight a beaucoup été comparée à Hunger Games et Stephanie
King. C'est quand même pas du tout la même chose, hein. Ouais, mais, et pas la même qualité.
Ouais, mais elles ont été sorties. Enfin, elles ont été beaucoup comparées dans les critiques et Stephanie Meyer a dit que l'histoire l'a maintenue éveillée pendant plusieurs nuits d'affilée. Même après avoir fini de le lire, elle continuait à rester allongée, à réfléchir.
Tu m'étonnes. Marc, Katniss se pète peut-être moins la gueule que Bella. Dans toute l'intégralité de l'œuvre.
En tout cas, comme Twilight, Hunger Games fait partie des livres les plus bannis aux États-Unis. Parce que, comme vous le savez, aux États-Unis, c'est assez puritain. Et donc, chaque année, il y a l'American Library Association qui sort un top 10 des livres les plus bannis dans les écoles et les bibliothèques.
Ah, bannis dans ce sens-là, ouais.
Ouais,
dans
censurés
dans les trucs publics.
Exactement. Et en fait, si cette association, elle sort le top 10 aussi, c'est pour justement participer à l'information, en fait, de dénoncer aussi la censure. Et en fait, Hunger Games a été censuré pour les raisons suivantes. Anti-ethnique, anti-famille, insensibilité, langage choquant, satanisme. Violence.
Bon, violence, on comprend le reste.
Ouais, le satanisme, j'ai encore du mal à voir, mais. Mais globalement, le satanisme, pour eux, c'est pas tout ce qui est par religieux. Je crois que si, à partir du moment où c'est par religieux, c'est un peu satanique. Je crois qu'il y a certains groupes aux États-Unis qui sont un peu.
En même temps, Canis, elle a pas trop le temps de croire en Dieu. Si tu veux, dans Panem, je pense que t'es vite désespéré, quoi.
Et maintenant que tu le dis, il n'y a aucune référence religieuse.
Non.
Et après, c'est cohérent. Avec toutes les grosses dictatures dans ce genre-là, hein, que ce soit les nazis, les russes ou les maoïstes, globalement, si je dis pas de bêtises, à chaque fois la religion est interdite.
Bah, elle passait après le pouvoir, enfin le leader suprême.
Oui, c'est ça. Donc après, c'est vrai, c'est cohérent, mais maintenant que tu le dis, c'est vrai que ça, c'est frappant. Ouais.
Après, Hunger Games, voilà, ils ont eu beaucoup de critiques très positives, enfin, ils ont vraiment été encensés, mais ils ont aussi subi le mépris habituel pour la littérature jeunesse. Et il a eu ses détracteurs justement parce que certaines critiques ont noté des similarités entre le roman et celui de Kushun Takami, Battle Royale, qui est sorti en 1999, donc près de 10 ans avant Hunger Games.
Ouais, c'est plus que des similarités, c'est vraiment le même concept, quoi. C'est sur le premier livre. Après, évidemment, elle continue. Mais sur Battle Royale, si je me souviens bien, c'est des enfants ou des ados qui se battent sur une île où ils sont filmés pour montrer aux ados qui ne sont pas sur l'île, aux autres, l'extrême violence en pensant que ça va les écœurer et que du coup ils vont arrêter d'être violents. Je crois que c'est un peu ça le concept.
Parce qu'après, si on continue, Battle Royale peut être inspiré de Sa Majesté des Mouches aussi, qui est Lord of the Flies de William Golding, qui est paru quand même en 1954. Et là, le concept, c'est des enfants qui arrivent sur une île déserte et qui doivent survivre. Et en fait, ça se passe très mal. Et c'est... Non mais voilà, sans trop en dire.
Mal.
Et du coup, bah, c'est quand même aussi, on peut dire que bah, ça, c'est inspiré de ça.
Dans Battle Royale, il y a vraiment aussi le côté filmé, le côté télé-réalité, oui. Le côté mis en scène, le côté où ils réduisent les zones. Parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a une histoire de collier. Où en fait, on leur dit cette zone-là, elle est interdite, vous devez fuir, ou sinon le collier explose et tu meurs. Donc, après, moi, honnêtement, ça me dérange pas parce que je suis plutôt je fais partie des gens qui sont pas dérangés par le fait qu'on leur raconte la même histoire, dans le fond, s'il y a des petits trucs nouveaux ou si c'est bien fait, quoi.
On peut pas dire que c'est du plagiat quand même.
Ouais, on est pas loin.
Après, il y avait aussi Running Man de Stephen King. Qui est aussi sur le même concept, où c'est une télé-réalité où les gens participent et t'as un mec qui doit échapper à des hordes de personnes qui lui courent après pendant un mois.
C'est pour ça que, en fait, je sais pas qui a plagié ou même n'a pas plagié. Moi, ça me dérange pas parce que je trouve que Hunger Games, en tant qu'œuvre à part entière, elle est très bien.
Oui, et puis en vrai, il y a beaucoup de livres qui sont inspirés d'autres livres ou d'autres œuvres. Oui, enfin, je veux dire, c'est quand même la culture, c'est quand même un cycle où. Beaucoup puisent leur influence quelque part.
Il y a quand même beaucoup de films qu'on regarde qui sont des remakes et des fois on sait même pas que c'est un remake d'un film qui a existé, on râle pas quoi.
Voilà. Voilà. Il y a aussi un docteur en sémiologie en tout cas qui a dit que Hunger Games, donc il s'appelle Jean-Michel Berthiaume, et il a dit que Hunger Games, ça peut participer à la dissémination d'idéaux révolutionnaires.
Je ne sais pas ce que c'est un sémiologiste.
La sémiologie, c'est une science qui étudie les systèmes de signes, donc le langage, etc.
Donc, d'accord, en fait, on en apprend des choses. Hein.
Voilà, et donc en fait, il a dit que Hunger Games, ça pouvait participer aussi à apprendre aux jeunes à bouleverser l'ordre établi.
Ah, bah ça, on aime bien.
Voilà, mais en tout cas, ça a été un très très gros carton. Et les droits du roman ont bien sûr été achetés en 2009, peu de temps après sa publication, donc vraiment dans la foulée, alors que le livre n'était pas encore devenu un phénomène. Et en fait, on doit ce flair à Nina Jacobson, qui était une grande productrice américaine, qui avait d'abord été présidente de la branche cinéma du groupe Disney, notamment, et qui dirigeait depuis quelques années une société de production, Color Force. Et elle a acheté les droits, et Lionsgate Entertainment a passé un deal de coproduction avec elle, parce que eux, ça faisait genre 5 ans qu'ils étaient dans le rouge. Ils gagnaient plus d'argent, ils faisaient plus profit, ils ont dû vendre carrément des assets pour pouvoir coproduire le film avec Color Force et pour pouvoir sécuriser un budget de 78 millions de dollars pour le premier
ça va,
film.
Hein, c'est pas tant que ça. Hein. Mm. Pour un truc de, au niveau effets spéciaux, décors, tout ça.
Ouais.
Bah. Que c'est pas beaucoup, beaucoup.
Bah, beaucoup de gens ont dit que c'était limite un film à petit budget, pas tant que ça.
Ouais, c'est bah, 70 millions pour un film comme ça, c'est pas non plus rien. Quand tu vois des films qui font 200 millions, 250 millions, c'est... Bon, là, on va en parler du film, il y a des problèmes. Mais honnêtement, ça se défend hyper bien pour le budget qu'il a, quoi.
C'est comme ça, en tout cas, que le film Hunger Games a vu le jour en salle en 2012. Et nous vous passons la bande-annonce tout de suite.
Tu veux voir le cadeau que je t'ai apporté ? C'est un gemme au cœur. Tant que tu le gardes sur toi, rien de mal ne peut t'arriver. Je te le promets.
Bienvenue et joyeux Hunger Games !
Oh, j'adore ça ! Les dames d'abord. Primrose Everdeen !
Non ! Je me porte volontaire ! Je me porte volontaire comme tribu.
Tu es plus forte que...
On va être 24, Gale. Un seul survivra.
Non ! Non !
Occupe-toi d'elle, Gale, et surtout ne laisse pas mourir de faim.
Katniss Everdeen, la fille du feu !
Qu'as-tu dit à ta sœur lorsque tu t'es portée volontaire à la moisson ?
Je lui ai dit que j'essaierais de gagner pour elle.
Et tu essaieras.
Je voudrais trouver un moyen de leur montrer que je ne leur appartiens pas. Si je dois mourir, je veux rester celui que je suis.
Je ne peux pas me permettre de penser comme ça. Donc Hunger Games, c'est un film réalisé par Gary Ross, coécrit par lui-même avec Billy Ray et Suzanne Collins, l'autrice du roman. Donc il est sorti 2 ans après la sortie du 3e et dernier tome de la saga. Donc ça c'est assez intéressant pour la suite, c'est que les films ont vraiment été produits alors que la saga était terminée. Et on va voir que ça a mené à certaines différences dans le film qui sont dues au fait qu'on connaissait la fin. Donc Suzanne Collins a participé à l'adaptation du roman elle-même. Et le but bien sûr de ce film c'était quoi ? C'était d'avoir un PG-13. C'est-à-dire que ce soit accessible... à partir de 13 ans aux États-Unis.
Donc normalement, il n'y a pas de sang, il n'y a pas trop de gros mots, pas de satanisme.
Voilà. Donc Gary Ross, pour dire qui c'est, donc c'est un réalisateur, scénariste et producteur américain. Il a notamment été scénariste pour le film Big de 1988 avec Tom Hanks.
Je connais pas.
Ah, tu connais pas ? Moi je le connais, j'ai jamais vu le film.
Il est aussi réalisateur et scénariste du film Pleasantville avec Tobey Maguire et Reese Witherspoon. Vous connaissez pas, en plus ça dénonce aussi un peu la télé-réalité, enfin c'est intéressant.
T'es sale de faire des épisodes avec des incultes.
Et plus récemment, il a aussi réalisé et scénarisé les films Free State of Jones et Ocean's 8.
Non, j'ai vu que Ocean's 8. Pas ouf.
Il n'était pas à l'origine, Gary Ross, il n'était pas le seul candidat pour faire Hunger Games. Il y avait d'autres grands noms de la réalisation en lice, dont Sam Mendes.
Ah oui.
Ah, ouais.
Ouais, ouais, quand même. Et David Slade, qui était le réalisateur de Twilight Chapitre 3.
Alors, fais tout, fais tout sur ça.
Et en fait, dès son premier rendez-vous, Gary Ross, il a convaincu les producteurs, parce qu'en fait, il s'est présenté à l'entretien avec genre un storyboard complet de sa vision du film.
Il s'est donné le gars.
Le mec a tout préparé.
Voilà, il était clairement prêt. Et très vite, ils ont dû caster les acteurs et actrices du film, et notamment le rôle principal. Et il y a eu de nombreuses actrices qui ont été envisagées pour le rôle principal de Katniss, dont Emma Roberts, Chloé Grace Moretz, Hailee Steinfeld, Abigail Breslin, qui était Little Miss Sunshine, Saoirse Ronan, Saoirse Ronan quand même, Kaia Scodelario, Emily Browning et Shailene Woodley.
Il y a tout le monde, ouais.
Toutes les meufs, de cet âge-là, ouais, ok. Ouais. Et qui ont après joué pour la plupart dans d'autres dystopies. Hein,
oui, bah fait. Oui, bah comme Shailene Woodley qui a joué dans Divergente. Mmh. Bref. Et,
ah oui, c'est vrai, j'ai oublié.
Et en fait, c'est donc Jennifer Lawrence qui a été engagée et ce qui a fait un énorme tollé à l'époque parce qu'elle est blonde, naturellement. Alors que Katniss est brune. Et surtout qu'elle avait déjà 22 ans à l'époque. Alors que non, 20 ans à l'époque, alors
c'est
que Katniss
était censée avoir... C'est vrai qu'elle fait un peu âgée, mais bon, c'est que ça.
Est-ce qu'elle était connue avant ou pas? Ou c'est vraiment le film qui
elle
l'a fait connaître?
Elle avait fait un film, Winter's Bone.
Ah oui.
Un poil déprimant.
Mais c'est quand même plus Hunger Games, je pense, qu'elle l'a vraiment fait découvrir au grand public. Et d'ailleurs, Suzanne Collins, elle a joué un rôle prépondérant dans le choix de Jennifer Lawrence parce que... elle a dit que pour elle, c'était vraiment... Elle représentait aussi la maturité de Katniss. Mmh. En fait, pour elle, c'était pas un problème que l'actrice soit un peu plus âgée, parce que justement, Katniss, elle est quand même assez posée de temps en temps, elle est assez, assez mature, etc.
Ça fait longtemps qu'elle pourvoit aux besoins de la maison, donc bon, c'est pas une fille de 16 ans classique, dirons-nous.
Voilà. Et Gary Ross a dit que Jennifer Lawrence a plus contribué au film que lui-même. Donc,
ok.
C'est pas faux.
Oh.
Ouais, moi, je trouve que c'est un bon choix. Hein. Enfin, je...
Ah oui, moi, je trouve qu'elle est excellente dans le rôle de Katniss. Enfin, pour le coup, on y croit totalement.
On y croit à donf, ouais. Il y a des choix ensuite qui ont été faits du côté des scénaristes et du réalisateur qui sont par contre discutables sur son personnage.
On continue juste sur le casting. Pour le rôle de Gale, donc le meilleur ami de Katniss, on a Liam Hemsworth.
Alors lui, il est en fuckboy 3000. Hein. Oh là là. Déjà, il a 43 ans là quand il fait le rôle. Mais c'est... par contre, alors autant quand Jennifer Lawrence elle est toute seule, ça dénote pas. Mais par contre, quand ils sont à deux, de dire que c'est des ados de 16 ans, il y a grave un truc qui tourne pas rond.
Après, lui, il est censé être un peu plus, il est censé avoir 18 ans.
Non mais arrêtez, mec, ouais. C'est une montagne à glace, fuckboy 3000 là avec sa coiffure à la con. Alors
non,
lui,
mais
j'y
de
croyais
base, de
pas
base,
du tout.
Il sert un peu à rien aussi dans le livre en fait.
Ouais, bah dans le livre, tu le vois quasiment pas.
Oui, mais
là c'est juste un peu le mec, un peu BG, voilà, pour faire, voilà.
Non, mais alors lui, j'y croyais pas du tout, vraiment.
Et dans le rôle de Peeta Mellark, on a donc Josh Hutcherson.
Que je l'ai vu que dans ça. Non, mais c'est vrai.
Il a pas trop percé.
Vu dans
je crois qu'il a. Non, je crois qu'il a pas trop percé après.
Mais
non plus.
Alors qu'il est pas. Il est pas mal quand même dans le film, enfin, je veux dire, il joue bien.
Et pour le coup, lui, il a vraiment l'âge, enfin, il a 19 ans, donc il est. Il
bah, dans le rôle, il est bien, hein. Enfin, je veux dire, un peu le mec un peu bené, tout ça. Il est bien, hein, enfin.
Ça clash. Je suis pas sûr que ce soit vraiment sa caractéristique principale.
Moi,
mais...
je fais du glaçage, je fais des gâteaux et tout, tranquille, hein. Enfin...
C'est vrai que t'y crois, enfin, et en plus, il a la bonne tête, un peu gentil, un peu
naïf.
Ouais,
jovial,
il est jovial.
Il est jovial. Ouais, ouais, il.
Est-ce que je suis jovial, moi? Non, est-ce que tu dis ça vraiment comme oui, bah c'est un garçon
jovial. Non mais jovial, c'est pas méchant non plus, hein.
C'est pas gentil.
Et tu vois, il a une tête un peu ronde et tout, tu vois, l'imagine.
Ouais,
pas.
Il fait inoffensif en fait, ouais. Plutôt. Et on a des rôles secondaires hyper remarquables quand même dans ce film qui avait pas un si gros budget. Donald Sutherland qui joue le président Snow.
Ça c'est stylé.
Donc un immense acteur et le pire, c'est incroyable, c'est que vous savez comment il a eu le rôle?
Il a demandé.
Il a demandé. Il a demandé, pas il mal. Est tombé sur le script par hasard et il a dit, ok, ça lui a fait penser au Sentier de la Gloire de Stanley Kubrick. Et il a...
Ouais.
Ok. Oh, ouais, ouais, c'est ce que, ouais, c'est ce que dit la légende. Et okay, il a Donald. Écrit une lettre de motivation pour jouer le rôle du président.
Très mignon.
C'est assez mignon. On a Elizabeth Banks qui joue le rôle de Effie Trinket.
Et on la reconnaît pas des masses, je trouve.
Mais elle est très maquillée.
Ouais, elle est très maquillée, ouais.
Elle est bien aussi, elle.
Parce qu'elle est vraiment faite, là, pour le coup, je sais pas vous comment vous l'imaginez dans le livre, mais là, elle est vraiment très maquillée, avec sa peau qui change de couleur, des perruques improbables, des tenues très flamboyantes. Elle pousse vraiment les excès du Capitole au maximum, quoi. On a, dans le rôle de Haymitch, Woody Harrelson.
Alors, moi, lui, quand j'ai lu le livre, je l'avais en tête.
C'est vrai ?
Ouais, autant Jennifer Lawrence et tout, comme j'avais vu comme le film quelques années avant... je me représentais pas forcément comme ça, mais alors par contre Haymitch, moi je vais Woody Harrelson minute 1 quoi. C'est
dès que non, tu moi lis, je le trouve parfait aussi dans ce rôle, franchement.
Mais ça
failli être il est parfait tout le temps.
C'est vrai qu'il est hyper juste, alors que ça failli être une autre personne. John C. Reilly.
Ouais, il est pas mal aussi.
Joue dans Boogie Nights, Magnolia, Aviator, Gangs of New York, enfin il tourne beaucoup avec Scorsese notamment. Et
pas le dernier des Pignouf.
Ouais, il est plutôt bon, mais finalement c'est Woody Harrelson et je trouve que ouais, il est excellent Woody Harrelson dans le rôle. Et on a aussi Lenny Kravitz.
Et oui,
dans le rôle de Sina, donc pas mal.
Oui, il joue bien. C'est en fait Sina après dans le livre, il a pas même dans le film, il a pas non plus un rôle.
Non, il a pas un rôle très
important. En fait, il est important dans l'histoire, mais tu le vois pas tant que ça.
Oui, il développe un lien avec Katniss.
Il parle pas beaucoup. Ouais.
Et on a Stanley Tucci qui fait le rôle de César Flickerman.
Pareil, il est toujours bien lui. On l'aime toujours.
Voilà. Du coup, on avait dit que c'était un film à petit budget, et c'est le cas. Et d'ailleurs, il y a le réalisateur Gary Ross qui a dit qu'ils ont subi une énorme pression financière pour ce film. Il a coûté genre 78 millions de dollars. Et sauf que le problème, c'est qu'il y avait des attentes énormes. C'était censé être un hyper gros film, et sauf que des blockbusters, en général, ça coûte 2 à 3 fois plus cher. Donc il a subi énormément de pression. Et en fait, c'est pour ça d'ailleurs que Gary Ross n'a réalisé que le premier Hunger Games et pas les autres.
Il était épuisé après. Il en pouvait plus.
Bah, je sais pas ce qu'il a subi, mais...
Et après, ça se ressent un peu qu'il y a certains costumes qui sont un peu cheapos.
Ah bon, genre quoi ?
Le costume des pacificateurs. On dirait le truc pour quand tu mets pour peindre les combis blanches, là.
C'est vrai que c'est pas
c'est hideux. C'est hideux.
Ah, ça m'a pas choqué.
La combinaison de Katniss et Peeta quand ils font la parade.
Ah, c'est cheapos de ouf.
C'est pas des...
quand ils attendent pour la moisson, ils ont... tous les habitants, ils ont la même blouse limite, un peu grisâtre là, mais alors vraiment tous ils se sont dit alors vous nous mettez 1200 blouses grisâtres.
C'est cohérent là pour
Non, alors c'est cohérent, mais par contre,
ça m'a pas choqué,
je sens des fois que
pour moi c'est un peu léger quoi. Des détails aussi sur les décors, il y a certains décors qui font un peu fake, la nourriture,
un peu vide,
la nourriture dans le train, elle fait hyper fake. Enfin, tu vois que c'est un peu des décors, mais bon. Globalement, ça va. Et aussi, une des raisons pour laquelle les Hunger Games, vraiment la scène des jeux, ont été tournées en décor naturel, c'était aussi pour des questions de budget.
Ah oui, bah puis ça, pour le coup, je trouve ça bien.
Ça rend bien.
Ça donne un réalisme qui est quand même pas mal. Oui. Alors forcément, quand on tourne en décor réel, sans un budget de ouf, il y a toujours des problèmes de lumière, c'est un peu grisâtre et tout, mais en même temps... On est dans un truc où les mecs se tuent à mort dans une espèce de forêt. Bon, ça dérange pas que ce soit un peu gris, la lumière, quoi. Enfin, ouais, c'est cohérent. Je trouve que ça plonge dans l'ambiance, quoi.
Je suis d'accord. Et en fait, je préfère parce que même si on comprend plus ou moins dans le livre que c'est dans un décor un peu artificiel, j'ai trouvé ça bien qu'en fait, qu'ils fassent ça en décor naturel parce que ça... Je sais pas, ça met davantage la pression, je trouve. T'as vraiment l'impression d'être dans cette forêt et justement, le fait que ça fasse pas fake à l'écran, c'est plus immersif.
Ouais.
Ce qu'ils auraient peut-être pas eu s'ils avaient fait en fond vert. Et enfin, un autre fait qui rend le film un peu film indépendant par moment, c'est le fait que ce soit tourné très souvent caméra à l'épaule. C'est pas en steadicam. Et ça, c'est vraiment une décision aussi du réalisateur Gary Ross. C'est qu'il voulait justement refléter le point de vue de Katniss. Et du coup, il voulait pas que ce soit genre bien cadré, bien droit. Il voulait vraiment qu'on soit avec elle dans la violence.
Après, pour nous mettre son point de vue, il aurait peut-être pu juste la faire parler. Au lieu de mettre une shaky cam, quoi. Mais bon, après, c'est un autre débat.
Ouais. Alors, ça, c'est un problème du livre, c'est que Katniss ne parle pas beaucoup.
Dans le film.
Ouais, dans le film.
Après, moi, je trouve que c'est toujours extrêmement difficile dans les adaptations au cinéma. Quand dans le livre, c'est le point de vue du héros.
Ouais,
quand
mais
c'est
là...
écrit la première personne, ouais, on peut pas non plus faire une espèce de voix off dans la tête.
Ouais, mais ils ont enlevé plein de dialogues, notamment avec Roux. dans l'arène ou quoi, il y a quand même plein de scènes où elle parle, où tu peux faire parler les personnages, où ils la font pas parler. Il y a plein de scènes avec Haymitch où ils la font pas parler. En fait, là, elle ne parle pas.
Même les scènes avec Peeta, hein, dans le train au début, Peeta, il essaie de lui parler. Elle est en mode hyper froide, hyper austère, elle lui répond pas.
Mais oui, et du coup.
Alors que normalement, elle joue le jeu. C'est ça qui est ouf, c'est qu'elle se dit, ok, il faut que je rentre dans le truc. Pour justement m'en sortir en fait, et là elle est vraiment en mode je ne joue pas le jeu.
Bah, oui, dans le livre elle est, c'est clairement un personnage plus complexe en fait. Enfin,
bah là c'est même pas complexe du tout, enfin elle survit elle est pas,
bah,
le
là je trouve qu'ils l'ont plus mis en statut de héroïne en fait, genre c'est l'héroïne, mais du coup tout est simplifié, enfin même justement dans ses relations avec les autres etc, je trouve que ça va un peu vite, hein. Enfin, il y a beaucoup plus de subtilité dans le livre où elle sait pas, elle hésite, elle comprend pas trop ses sentiments, etc. Là, je trouve que on dirait que, enfin,
c'est focalisé sur le fait qu'elle doit survivre et le reste on verra plus tard, quoi.
Donc, mais en même temps, elle a l'air plus à fond dans le film que dans le livre.
Ah, moi je trouve pas.
Bah dans le livre, elle sait qu'elle
dans le film, elle subit de ouf.
À la fin, on a l'impression qu'elle est en mode j'y vais et c'est cool, alors que dans le livre, elle se pose toujours des questions en arrière-plan.
Ouais. Mm.
Et même à la toute fin, c'est vachement plus marqué dans le livre, ce côté où en fait elle a joué un rôle. Alors que dans le film,
mais c'est ça qui était intéressant. Moi, je trouve que du coup, le film est moins intéressant dans ce truc-là.
Oui,
quoi.
Bah, je suis d'accord. Ouais.
En fait, ça vient vraiment au fur et à mesure. Je trouve que pour le coup, le début du film est hyper fidèle au livre. Que ce soit les scènes dans le district 12, les décors sont hyper immersifs. Enfin, t'y crois, la misère, etc. Tu suis Canis, il pose beaucoup plus vite l'action. D'ailleurs, ils mettent des cartons au début du film, des cartons de texte, pour expliquer ce que ce sont les Hunger Games et Panem.
C'est mauvais signe, ça.
Bah, c'est juste qu'ils n'avaient pas envie d'expliquer dans le film, quoi. Enfin, clairement, ils ont voulu aller vite, donc ils mettent des cartons de texte pour qu'on comprenne où ça se passe. Mais la scène de la moisson, par exemple, moi, je l'ai trouvée très bien adaptée. Ils ont rajouté quelque chose, la scène du film, du Capitole, le film de propagande, qui est pas mal trouvé, parce que, pour le coup, pour cette scène de moisson... Là, ils sont clairement partis dans l'esthétique nazie. Hein. Les micros des années 40, le drapeau rouge avec l'aigle doré. Là, ils sont vraiment allés dans l'esthétique Troisième Reich. Et pour le coup, j'ai trouvé que cette scène, le silence, le fait qu'il n'y ait pas de musique, le côté un peu shaky calm, ça fonctionnait vraiment bien. T'étais dedans.
Ouais, il y a vraiment des fulgurances comme ça. Enfin, je trouve qu'il y a vraiment des passages, ou même dans l'arène, il y a des passages où t'es vraiment dedans, quoi. Et après, il y a d'autres soucis, quoi.
Bah, en fait, l'arène, c'est que tu sens qu'ils ont quand même voulu rendre ça grand public. Et donc, on voit quand même des scènes de violence. Tu les vois.
C'est surcuté, tu vois rien du tout. Tu te doutes, mais c'est surcuté parce
qu'il faut beaucoup moins violent que dans le livre.
Il faut pas montrer de violence. Donc moi,
la scène des chiens, elle dure 5 secondes. Dans le livre, elle dure ultra longtemps.
Ouais, mais c'est pas trop un problème. Parce que vraiment, la scène des chiens.
Bah oui, mais justement, il y a ce côté laborieux dans le livre. Ça dure. C'est horrible.
Ouais, mais ça me dérange pas de pas voir ça parce que ça m'a saoulé même en livre. Mais non, mais toutes les scènes de combat sont ridicules. Parce qu'en fait, tu peux pas faire un film avec des gosses qui s'entretuent en PG-14. C'est pas la faute du réalisateur, mais c'est inhérent au fait qu'il surcute tout pour que tu vois que le mec lui met un coup sur la tête. Mais tu vois pas qu'il lui met un coup sur la tête. Donc c'est flou. Ils mettent une musique sur toutes les scènes de violence, ils mettent une musique pour que tu n'entendes pas les gosses crier et tout. C'est quand même le concept du livre, après. Donc, je comprends parfaitement le parti pris et le choix.
Il y a des passages qui sont assez bien faits, des passages violents. Par exemple, à un moment, il y a une explosion. Et on entend l'explosion, et après, on entend comme si on était là, pour le coup, dans la tête de Katniss.
Ah oui, avec
il y a un bourdonnement
et tout,
en mode acouphène, et après elle entend plus très bien. Et là, je trouve que le son est hyper bien fait. Et là, on se remet un peu à sa place. Et ça, pour le coup, j'ai trouvé ça.
Il y a des trucs qui sont immersifs comme ça, mais je trouve que oui, ça pâtit forcément du côté un peu sans violence.
Même Katniss, elle subit beaucoup moins que dans le livre. Typiquement, dans le livre, à un moment, elle devient sourde à cause de l'explosion. Oui, elle devient sourde d'une oreille.
Même au niveau des brûlures. Là, ça va, un peu brûlé au mollet, quoi, tu vois.
Ouais,
dans le livre, c'est quand même plus compliqué, quoi.
Puis, non, mais il y a aussi, dans le livre, au début, elle galère, mais pendant des jours, à trouver de l'eau.
Ouais.
Là, on sait pas. Enfin, elle trouve direct un truc, hein.
Ouais,
alors qu'elle elle souffre, elle se déshydrate, elle essaye de dire « Hey Mitch, envoie-moi un truc, envoie-moi de l'eau. »
Et il l'ignore.
Et en fait, dans le film, c'est un peu squeezé, ce truc.
Ouais, et un autre gros changement majeur du film, c'est l'ajout d'un personnage, donc Seneca Crane, qui est un peu le chef des juges des Hunger Games. Et d'ailleurs, le film commence par une scène, une interview entre lui et ses
acteurs. Au début, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais c'est qui lui? Et franchement, j'ai bugué, je me suis dit, mais Je comprends pas. Qui est cette personne? J'ai noté sur mon calepin. Qui est cette personne?
Et ouais, en fait, on comprend donc, que c'est un peu le chef des juges des Hunger Games. Et en fait, ils ont un peu ajouté ce personnage dans le film pour faire des passages entre les scènes de juges et les scènes dans l'arène. Parce que contrairement au livre où on est dans la tête de Katniss, donc quand elle est dans l'arène, ça se passe 100% dans l'arène. Là, il y a pas mal de scènes où on voit les Hunger Games.
C'est vraiment l'envers du décor, en fait.
Alors... Je pense aussi qu'ils ont fait ça pour faire la continuité avec le 2, parce qu'ils mettent des éléments dans le film qui ne sont pas dans le livre.
Oui, il y a plusieurs indices, effectivement, rajoutés, c'est ça, pour qui faire une espèce mène de à la suite.
Continuité dans le deuxième livre. Je trouve que l'ajout de ce personnage est à la fois inutile et ça en pâtit. Parce qu'en fait, ce que j'aime bien dans le livre, c'est que tu ne sais pas, en fait. Tu ne sais pas à quel point ils ont le pouvoir d'agir. Tu soupçonnes que, en fait, ils peuvent tout faire. Et je trouve que à la fois ce
le
personnage-là,
le fait de les voir appuyer sur des boutons, ça rend les choses ridicules.
Puis il y a des trucs complètement absurdes. Hein, c'est.
Bah après, en fait, elle le dit. Enfin, elle le pense dans le livre. Elle dit ah oui, en fait, c'est vrai, les juges peuvent mettre des animaux dangereux, peuvent faire des explosions, peuvent faire des trucs comme ça.
Mais elle le déduit.
Elle le déduit, oui, elle le déduit. Mais du coup, comment rendre ça? On va pas.
Mais tu le rends pas.
Elle va pas le dire. Bah oui, mais c'est important aussi quand tu le lis, tu comprends que les juges ont une action. Alors que je pense que s'ils n'avaient pas mis ces trucs en mode envers du décor, on l'aurait pas forcément compris. Et c'est quand même intéressant de voir que tout est créé, en fait.
Ouais, moi, je trouve que
tout est artificiel et tout est manipulé. Même les relations entre les personnages, c'est une grande manipulation. Et ça, je trouve que c'est quand même intéressant de le voir. Et sinon, on pouvait pas le comprendre.
Enfin... Moi, je trouve que je suis plutôt team. J'aurais préféré qu'il l'explique pas et qu'on reste. Et à la limite, qu'il l'explique dans le dos. Tu vois.
Bah là,
je trouve que ça casse un peu le rythme, ça casse un peu le suspense. Les scènes entre le chef des juges et le président Snow, alors là, c'est lunaire. C'est vraiment, on t'explique que l'autre, il est méchant. Bah, c'est bien.
C'est, quand même c'est pour faire un peu la figure du grand méchant et effectivement alors, amener la suite.
C'est ouais. Ça.
Mais ils veulent montrer qu'il y a cette figure qui est, dans le premier tome, quand même assez absente.
Alors,
mais
il est pas là.
Mais moi, j'ai une théorie là-dessus. Victoire est pas d'accord, je
c'est
sais.
C'est quoi ta théorie?
C'est que c'est des scènes retournées. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont écrit un script. Donc il y a le côté Donald Sutherland, il voulait participer, donc il faut rajouter des lignes de dialogue. Mais en fait, comme les scènes avec le président Snow ne sont que dans un seul décor, petit décor, où il y a juste un mur de rose, c'est tout le temps le même cadrage, c'est tout le temps le même truc, avec deux seuls personnages, pour moi ça sent les scènes qui ont été tournées après le tournage, rajoutées avec le carton, après des projets presse.
Non, c'est juste un truc de réduction de budget, donc ils ont tout le temps utilisé le même décor, et pour moi, je suis assez d'accord avec Pascal, moi je pense qu'ils voulaient donner les indices pour la suite, parce qu'ils savaient que c'était
pas
président
débile non plus, on sait bien qu'il est méchant, lui, il a une tête de méchant.
Et mais il apparaît pas dans le livre,
oui, mais
il fallait poser la figure du grand méchant.
Oui.
Oui, mais il y avait déjà suffisamment de trucs à raconter dans le
ils ont rajouté le passage où il dit on leur donne de l'espoir, machin.
Ouais, c'est ridicule, ça, on peut comprendre.
Je sais pas, moi je trouve que.
Après, pour le coup, Seneca Crane, le chef des juges, il ne vient pas de nulle part parce que Snow en parle dans le tome 2, dans le livre.
Oui,
mais,
voilà.
Mais en fait, c'est une phrase. Il dit juste, en gros.
Tu vas spoiler là.
Il dit juste mon chef des juges, Seneca. Donc il en parle. Ouais. T'as vu, j'ai pas spoilé.
Ah, t'as pas spoilé.
J'ai pas spoilé. Mais voilà, et pour moi, c'est vraiment parce que comme les livres étaient sortis, ils savaient comment laisser les terminer et ils ont construit les films.
Moi j'ai trouvé qu'ils auraient pu mettre plus de choses qu'il y a dans le livre et laisser ça pour le deuxième.
Plus de dialogue.
Dans les scènes rajoutées qui donnent aussi une idée de la suite, il y a la scène de la rébellion.
Alors ça c'est ridicule.
Du district 11.
C'est nul.
Et ça franchement j'avoue.
Et on jette les chaises. Vous avez vu quand ils jettent les chaises?
Ça
m'a trop fait rire.
À un moment, le district 11 se rebelle et donc on voit, ils filment ce district alors qu'on voit aucun autre district à part le 12.
Oui, c'est.
Et voilà, les gens ils cassent des chaises, ils sont pas contents et ils se rebellent. Et ça dure genre 5 secondes et après t'es en mode ok.
Et c'est complètement illogique parce que pourquoi ils se rebelleraient là? Et pas les autres années, qu'est-ce qui a fait que là.
Oui, puis, bah,
enfin, c'est
et
genre
ça,
juste Katniss.
Ouais, et ça, je pense que c'est, ouais, et ça, je pense que c'est juste histoire de.
De préparer le
préparer
terrain. Ouais, moi, je trouve que c'est dommage. Franchement, c'est dommage.
Bah, après, en même temps, dans le livre, normalement, elle reçoit un cadeau de la part du district 11, et ça, elle le reçoit pas dans le film.
Oui, mais moi, en fait, ce que j'aimais bien aussi dans le premier
livre. Je comprends pas pourquoi avoir remplacé le cadeau par.
C'est
la
parce
révolte.
Que c'est trop subtil.
Moi, ce que j'ai bien aimé aussi dans le livre, c'est que Katniss. Elle essaie juste de survivre dans le tome 1 et elle se dit pas j'ai mené une révolte et tout. Tandis que là, ils te mettent déjà des graines pour poser la suite.
Dans le livre, elle
vrille un moment.
Elle vrille un moment, mais... elle a quand même envie de casser des gonades.
Oui.
C'est-à-dire, elle veut leur montrer quand même qu'elle les emmerde et elle,
oui,
elle
fait. Oui, mais pas à ce point.
Non, pas à ce point, oui.
Bon, je pense qu'on a fait quand même un peu le tour du film. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne adaptation?
Alors, moi, j'avais bien aimé le film avant de lire le livre. Quand j'ai revu le film après avoir lu le livre, il m'a paru. Vraiment très fade. J'ai trouvé que il y a pas de violence, il y a pas de dialogue, donc à un moment qu'est-ce qui reste Non mais voilà, enfin le livre c'est quand même violence et un peu complot. Là il y a pas de complot, il y a pas de violence, c'est juste Snow qui fait je suis méchant.
L'espoir.
Voilà,
donnons-leur l'espoir.
Avec son gros discours de nazi là, j'ai trouvé que c'était pas ouf. Ouais. Alors il y a quand même des musiques cool, il y a des scènes cool, ça se regarde bien, mais c'est juste que ouais. Comparé au livre...
C'est peut-être aussi parce qu'on l'a regardé juste après avoir lu le livre et il a pas tiré la comparaison.
C'est pas un mauvais film. Maintenant, je trouve que voilà, il y a des scènes qui ont été rajoutées qui n'ont pas lieu d'être et des scènes qui ont été enlevées qui ça fait un peu chier, quoi.
Bah ouais, moi je suis assez d'accord. Enfin, je me souviens avoir bien aimé le film à sa sortie et j'avais vraiment un bon souvenir. J'avais trouvé que c'était une très bonne adaptation. Et là, du coup, je l'ai revu juste après avoir relu et j'étais un peu déçue. Mmh. Après, j'ai pas trouvé ça nul. Je trouvais que c'était quand même... j'ai passé un bon moment et... Mais voilà, le côté, je trouve effectivement, c'est fade par rapport au livre.
Ouais.
Après, je trouve que ça reste quand même une adaptation pas trop mauvaise.
Ah non, franchement, c'est quand même une très bonne adaptation.
Ah oui, oui.
C'est juste qu'ils ont fait certains choix.
C'est un peu aseptisé, mais à l'américaine, en fait. Enfin, c'est triste à dire. Mais...
Et encore, pour un blockbuster, on l'a dit, c'est quand même. C'est pas 100% aseptisé. Je crois, il me semble que les films suivants sont plus en mode blockbuster classique.
Moi, j'avais. Ah, j'en ai plus souvenir, ouais.
D'après. Enfin.
D'après mes souvenirs.
D'après mes souvenirs.
De demander à David Ayer de les réaliser, quoi. C'est...
Non, mais ouais, moi je trouvais que le film était bien, c'est une bonne adaptation, mais c'est vrai qu'il souffre de la comparaison au livre, en fait, qui est vraiment bien. Donc tout ça pour dire, lisez le livre. Le film, en tout cas, a vraiment très bien fonctionné. D'ailleurs, il y avait une grosse, grosse attente quand ils ont lancé les préventes pour les tickets de cinéma. Il y a eu un énorme record de vente sur la journée qui a d'ailleurs dépassé celui de Twilight 3. Voilà pour en venir là. Le film a ramassé plus de 670 millions de dollars dans le monde.
Presque 10 fois sa mise, quoi.
Ouais.
Ce qui est bien.
Assez c'est énorme. Pas mal, ouais. C'est énorme. Bon, bien sûr, en termes de nomination, il n'a pas eu de grandes nominations aux Oscars ou ce genre de choses, parce que c'est un film pour ados, donc... Il subit forcément un peu le mépris inhérent à ce genre. Il a quand même eu 8 nominations aux MTV Movie Awards 2012.
Ouais.
Et il a gagné 4 prix. Meilleure performance d'acteur pour Josh Hutcherson qui joue Pita. Pita d'ailleurs.
Ok, ouais.
Ce mec-là d'ailleurs.
Je lance du pain.
Oui. Non, mais il a quand même gagné genre 20 kilos de muscles pour le film, pour ce rôle-là.
Cette scène du pain dans le film, elle est à chier. C'est...
Bah, il la coupe, il met des petits bouts par-ci par-là, comme si elle se souvenait au fur et à mesure.
Puis c'est pas des acteurs qui jouent leur rôle enfant, c'est eux. Donc c'est ridicule, ouais. on dirait que c'est passé il y a deux semaines.
Elle fait genre, c'est un peu mal fait.
Oui, je me souviens il y a longtemps. Puis t'as le mec qui jette un pain, mais tu fais, mais c'est passé il y a 3 jours. Enfin, par contre, ça c'est un exemple qui est. Bah, un truc qui va pas du tout dans le film. Quoi.
Dans les prix de MTV Awards, il y a eu aussi quand même meilleur combat, meilleure performance d'actrice pour Jennifer Lawrence. Et meilleure transformation à l'écran pour Elizabeth Banks, qui fait Effie.
Ah,
d'accord. Ok. Meilleure transformation à l'écran, je note l'expression.
Voilà. Est-ce que vous avez préféré le livre ou le film, même si on a déjà un peu répondu à cette question ?
Bah, le livre, oui.
Le livre aussi. Sans hésitation. Et c'est vrai que je me tâte un petit peu à lire la suite.
Tu vas le faire.
À me remettre dedans, sûrement.
C'est pas comme si t'avais déjà 125 livres à lire, mais bon. Je pense que c'est très important de revenir un peu au bases.
Au basics.
Maintenant qu'on a parlé de Hunger Games, c'est le moment de passer à nos recommandations. Donc, que recommandez-vous ce mois-ci en lien avec Suzanne Collins, les dystopies, la littérature jeunesse, Jennifer Lawrence? Et je vais commencer par Hugo.
Ah, j'avais pas préparé. Alors moi, j'ai plusieurs recommandations. Alors dans le genre dystopie révolutionnaire, moi j'avais beaucoup aimé Révolte sur la Lune, qui est un titre français horrible. Le titre anglais c'est The Moon is a Harsh Mistress, de Robert Heinlein, qui est une, donc d'après son titre, l'histoire d'une révolte sur la Lune, en fait Lune qui sert de prison géante en fait. Et la Terre envoie tous les gens qui n'ont pas trop envie de... qui restent sur Terre, sur la Lune, un peu comme nous on a fait avec les États-Unis, enfin voilà, on envoie des bagnards. Et ces gens-là, au bout d'un moment, bah, vont se révolter. Et il y a pas mal de références à de la littérature, notamment à Sherlock Holmes, à des choses comme ça. Et c'est vraiment très bien. Et en plus, ça initie un peu la révolution. Parce qu'ils expliquent notamment le concept des cellules à trois personnes, comment tu crées des cellules de complot, en fait. Non, c'est de complot pour éviter que s'il y a un traître, ça empiète sur les autres cellules, en fait. Enfin, il y a vraiment une espèce de théorie de la révolution qui est assez intéressante. Moi, j'ai fait mes armes là-dedans, c'est très bien. Et il y a une autre œuvre dont je vais vous lire le titre français, qui s'appelle Meurtre au jeu de boules. qui est, je ne sais pas si vous l'avez deviné, Rollerball.
Ça n'a rien à voir.
Ah mais j'adore moi ce titre, Meurtre au jeu de boules. T'as l'impression que c'est vraiment la pétanque sanglante.
Oui, c'est ça, la pétanque.
C'est ça, c'est le Molky tueur. Donc qui est un livre de William Harrison de 1973 que j'ai pas lu, mais moi j'avais vu les deux adaptations. Donc l'adaptation de 1975 qui est assez hard de souvenir, mais qui est un peu vieillie, et l'adaptation de 2002 de McTiernan qui est un exemple de film qui a mal tourné. Donc qui est vraiment une bonne, très bonne idée au demeurant, mais que les producteurs ont saboté, que McTiernan était saoulé, je crois que c'était avant qu'il aille en prison. Donc voilà, donc c'est, le film est très mauvais avec Jean Reno qui fait un accent russe, qui est en roue libre, qui parle anglais avec un accent russe. Enfin,
non, c'est pas possible ça.
Voilà. Mais par contre, l'histoire est vraiment bien. En fait, l'histoire c'est, donc le Rollerball c'est un jeu hyper sanglant, où globalement il faut mettre des boules en métal dans des buts, en rouleur, mais en se foutant vraiment fort sur la gueule. Donc il y a des morts et tout, et ça fait un peu dans l'ambiance gladiateur, quoi. C'est les mecs qui regardent ça un peu pour se défouler. Il y a toute une mafia qui tourne autour. Il y a aussi cette notion d'exutoire du peuple. Si rien de ça, ils vont pas penser à se révolter. Ben voilà. Donc je trouvais que c'était un peu dans le thème des dystopies révolutionnaires.
Ok. Tout un programme. Et toi, Pascal ?
Moi, je vais rester aussi dans la littérature jeunesse avec une autre dystopie révolutionnaire, donc moins révolutionnaire que ça quand même. c'est la série Uglies. Je sais pas si vous connaissez, de Scott Westerfield.
Je crois qu'on l'a déjà recommandé.
Ah, on l'a déjà recommandé.
Je crois que,
ah mince. Ouais. Bon bah, moi, je trouvais que, ah bon, pour quel épisode ? Parce que
je me demande si c'est pas dans Handmaid's Tale.
D'accord. Je vois moins le rapport avec avec. C'était pas moi quand même.
Non, je crois que c'était moi.
Ah, c'était toi. Ah, pardon.
Mais ça n'avait rien à voir.
Ouais, je sais pas. Non, mais c'est vrai que La Servante Écarlate, c'est aussi un peu une dystopie révolutionnaire. Enfin, je veux dire, il y a beaucoup de choses qui vont là-dedans.
Oui, bien.
Mais du coup, bon, bah, désolée, je recommande encore ce livre qui, malheureusement, est épuisé. Donc, on peut le trouver seulement en d'occasion.
Ah, j'ai vérifié.
Il est sorti en 2005, donc ça date quand même. Ouais. Mais voilà, donc c'est aussi une dystopie dans laquelle... tout le monde subit une opération de chirurgie esthétique à 16 ans pour devenir beau. Et en fait, on se rend compte que c'est un complot et qu'en fait, on implante des choses dans le cerveau pour devenir bête aussi. Beau, mais bête, voilà. Donc après, il y a une révolte et tout ça. J'avais trouvé ça vraiment bien. Il y a 4 tomes.
Ouais, c'était vraiment
c'est
bien.
C'est aussi... Il n'y a pas eu d'adaptation. Je trouve ça dommage.
Je me demande s'il n'y a pas une série qui est prévue.
Ah !
Il y a une adaptation en série qui a été annoncée il n'y a pas longtemps, il me semble.
Ok, à suivre.
Et toi, Victoire, qu'est-ce que tu recommandes ?
Alors, moi, sans aucune surprise, vous en doutez, vu du timing, il y a le préquel de Hunger Games qui est sorti.
J'ai failli en parler en plus, hein, je me suis dit, oulala, je sens la recommandation de Victoire.
Évidemment. 10 ans après le dernier Hunger Games, Suzanne Collins a sorti un nouveau livre, La balade du serpent et de l'oiseau chanteur. Et ce n'est pas une suite de Hunger Games, mais un préquel, puisque ça se passe 64 ans avant les événements du premier tome.
Ouh.
Et donc, on y suit le jeune Coriolanus Snow, 18 ans, qui vit au Capitole et qui va être mentor d'un tribu des 10e Hunger Games.
Intéressant, j'ai hâte de le lire.
Et je te le passerai. C'est Merci. Trop bien, c'est trop bien. Je l'ai lu en 3 jours, ça me faisait tellement plaisir de me remettre dans cet univers-là. Je l'ai relu du coup avant... de relire le tome 1, donc c'est vrai que là, pour le coup, mes souvenirs, ils dataient d'il y a un peu longtemps, mais je me suis quand même tout de suite remise dedans. Les personnages, encore une fois, sont très complexes. C'est pas tout blanc, tout noir. Ils ont tous leurs différences, leurs ambitions, leur part d'ombre, etc. C'est très dense, il se passe énormément de choses en 600 pages entre les Hunger Games et la découverte du Capitole, et plus encore. voilà, enfin, en tout cas, j'avais un peu peur de ce concept-là, surtout après, parce que c'est le même concept finalement que les Animaux Fantastiques. Hein. Si on veut être honnête, c'est le côté préquel où on découvre un grand méchant, comme c'est le cas avec donc Grindelwald pour Harry Potter. Et là, pour le coup, j'ai pas été déçue. J'ai trouvé que le livre était très bien écrit. C'était
ça donne envie.
Ouais, c'était on se foutait pas de notre gueule. Et en plus, il va être aussi adapté en film.
Étonnant.
Bah pour le coup, j'ai un peu peur parce que le livre est tellement énorme. Autant le Hunger Games, je sais pas si vous vous souvenez, le premier tome, il fait 400 pages. Là, il en fait vraiment 600. Et en film, je suis un peu inquiète parce que j'arrêtais pas de me dire, mais qu'est-ce qu'ils vont couper, quoi. Enfin, donc, j'aurais préféré, à la limite, une adaptation en série, mais bon, on verra ce que ça donne. En tout cas, voilà, c'était ma reco Dis-moi.
Alors, avant de finir, est-ce que vous voulez un petit bonus titre français nul ? Parce que j'en avais noté un. Alors, Robert Heinlein, donc, qui a écrit Révolte sur la Lune, il a aussi écrit Starship Trooper.
Qui est un livre
dont ils ont fait un film. Est-ce que vous connaissez le titre français de Starship Trooper ?
Non.
Ça s'appelle Étoile, virgule, garde à vous.
Mon Dieu. Mon Dieu, la VF, parfois.
Voilà, c'est... Je plains Robert Heinlein vraiment et William Harrison qui ont eu droit à des traductions de titres
un peu hasardeuses.
Sous Starship Trooper, bon, c'est assez clair.
Pour faire un dernier d'ailleurs point sur Hunger Games, c'est drôle parce que le titre n'a pas été traduit. Hunger Games.
Alors qu'ils ont pu mettre les jeux de la fin.
Oui, bah,
Les Québécois, ils ont fait ça.
Ouais, mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que Twilight, lui, a eu une autre traduction. Il y a eu Fascination, Hésitation.
Non, mais ça s'appelle quand même Twilight.
Non, à l'origine, les livres Twilight, il n'y avait pas le titre Twilight. C'était vraiment juste, ça s'appelait Fascination.
Ah ouais, ok.
Donc, c'est peut-être qu'il y a eu un shift dans la mode et qu'au bout d'un moment, on a accepté les titres en VO, je ne sais pas. Bref, c'est donc la fin de cette émission sur Hunger Games. Merci à vous deux d'avoir participé à cet épisode.
Merci, Victoire.
Merci.
Et merci à vous de nous avoir écoutés jusque-là. Vous pouvez retrouver Adapte-moi si tu peux sur Facebook, Twitter et Instagram. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez aussi nous mettre des gentils commentaires et des 5 étoiles sur les différentes applications de podcast. On se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode. Et d'ici là, on vous dit à bientôt. Salut.
Salut.
Et que le sort puisse vous être favorable.